bienvenue au Polysécur épisode, on va dire technique. Je suis accompagné de David. Comment vas-tu?
Très bien, et toi?
Très bien aussi. C'est ta deuxième apparition, cette fois-ci plus dans ton rôle académique, ton rôle de ton day job finalement. Ce que tu fais vraiment, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, puis ensuite on va basculer sur le sujet.
Oui, tout à fait. Je m'intéresse beaucoup à l'impact des technologies sur le crime. Et c'est un thème qui est quand même assez large, mais qui touche un peu à comment est-ce que les délinquants vont utiliser les technologies pour arriver à faire des crimes, mais aussi comment est-ce que les services de police puis les services de sécurité privée vont prendre avantage de ces technologies-là aussi pour essayer de prévenir ou de réagir face aux crimes. Donc, à travers tout ça, tu sais, j'essaie de collecter des données de manière assez massive. Puis le but, c'est de comprendre un peu cette espèce de jeu là, du chat et de la souris, de délinquants qui essaient de rester le plus discret possible, anonymes, des services de police, de sécurité qui essaient de les identifier. Donc, on est un peu un observateur privilégié, si on veut, de tout le milieu criminel. Et je pense que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai ce rôle-là. Et toujours aussi intéressant, ça l'était, même plus, je dirais.
Oui, probablement, parce qu'avec le temps, les choses ont évolué, les choses ont changé. Aujourd'hui, on va parler du Dark Web, un peu comme tu mentionnais, sa montée et son déclin maintenant, parce que les choses ont changé quelque peu. Ce qu'on appelait le Dark Web il y a 5 ans n'est plus tout à fait la même chose de nos jours. Donc, je vais te laisser un peu décrire qu'est-ce que le Dark Web, qu'est-ce que c'était avant, les plus vieux, on présume que c'est le Dark Web et comment ça a évolué.
Oui, ben en fait, déjà, on peut commencer en se disant, tu sais, qu'est-ce que le Dark Web? En fait, il faut vraiment le voir comme un outil de communication qui permet d'anonymiser les parties dans une conversation, communication quelconque. Donc, c'est pas une destination, on peut pas aller sur le Dark Web, mais on peut utiliser le Dark Web pour aller quelque part. Donc, c'est un peu comme quand on va en voyage, ben on prend l'avion pour aller quelque part, mais on va pas dans l'avion. On va aller quelque part d'autre que dans juste l'avion. Aussi agréable que ce soit d'être dans la rangée 32F. Donc, le Dark Web...
ouais, je sais pas, mais moi, j'ai pas énormément de plaisir dans l'avion, fait que je veux pas être là le plus... Je préfère être à destination qu'être dans l'avion. j'aime bien ton image.
Et donc, le Dark Web, en fait, on devrait dire les Dark Web, donc c'est toute une série d'outils qui servent à anonymiser, à cacher l'identité donc d'individus, de compagnies, de ressources qui sont disponibles en ligne. Et là, il y en a plusieurs qui ont été développés. Je dirais que le plus connu, le plus populaire, c'est le réseau Tor qui a été lancé il y a plus de 20 ans. Et le réseau Tor, en fait, pourquoi est-ce que c'est le plus connu? Ben, c'est assez simple. C'est celui qui a eu le meilleur financement. C'est celui qui a le plus de ressources et ça leur a permis de développer des outils pour démocratiser l'utilisation de cet outil-là. Quand on regarde d'autres dark web, I2P, qui est probablement le deuxième plus connu, ça reste encore très difficile à utiliser pour la personne, je dirais, ordinaire. Et donc, c'est pour ça qu'on se rend compte que on va avoir quelques millions de personnes qui utilisent le réseau Tor à tous les jours. Et peut-être quelques dizaines de milliers qui utilisent I2P à tous les jours. Donc, on n'est vraiment pas dans les mêmes ordres de grandeur du tout. Donc, les Dark Web, il faut vraiment le voir comme un outil qu'on utilise pour se cacher, qu'on soit un acheteur de malware qui veut obtenir un produit, ou qu'on soit en fait un groupe de ransomware, qu'on soit un développeur de malware ou un vendeur de malware, et qu'on ne veut pas que la police nous trouve trop facilement. Donc, utiliser cet outil-là pour rendre plus difficile le traçage des individus. Donc, c'est une technologie qui a quand même évolué dans le temps et on peut se dire qu'on pensait au départ que le Dark Web permettait vraiment d'anonymiser les connexions et de rendre impossible l'identification des personnes qui étaient impliquées dans des activités en ligne. On se rend compte aujourd'hui, comme toute chose, qu'aucune technologie n'est parfaite. Et finalement, que oui, ça peut ralentir les services de police, Mais si le gouvernement américain veut savoir qui vous êtes et où vous êtes, malheureusement pour vous, que ce soit l'utilisation d'un VPN, du dark web ou autre, il n'y a aucun outil qui va être parfait puis qui va empêcher finalement les forces de l'ordre de vous retracer.
Oui, tout à fait. On en a vu plein, là, tu sais, le Silk Road, on a vu plein d'éléments comme ça qui sont apparus dans le temps, qui ont quand même fait les manchettes, qui ont frappé l'imaginaire en termes de se cacher. Mais à terme, ils se sont toujours fait trouver pour différentes raisons, parce que la réalité, c'est du OPSEC, c'est excessivement difficile. Et si on ne fait que du n'utilise que tort dans ce que tu mentionnes, c'est insuffisant pour réussir à masquer totalement notre identité et à nous retracer. Et dans les faits, c'est que le gouvernement américain, puis tu le mentionnes, ont énormément de ressources. Puis s'ils veulent vraiment vous trouver, puis ont la justification, donc les moyens, ils vont y arriver dans tous les cas. Là.
Exactement, exactement. Puis donc, on a eu plusieurs cas là, de délinquants qui ont été retracés. Tu parlais de Silk Road, qui était probablement la première plateforme qui a utilisé cette technologie-là pour vendre des drogues illicites en ligne de manière, disons, plus ou moins sécuritaire. Et pendant 2 ans, en fait, on y a cru, puis c'était vraiment l'Eldorado, en fait, promis. On pouvait trouver des drogues illicites abordables, de meilleure qualité, qu'on pouvait faire livrer dans le confort de son foyer. Mais au bout de 2 ans et demi, le site web a été saisi par les autorités policières américaines. Puis on a réalisé en fait que malgré toute la beauté de cette technologie-là, c'était possiblement pas assez pour se protéger. Donc, le dark web, en fait, ça a été un espèce de buzzword assez présent, je pense, dans le monde de la sécurité. Le nombre de compagnies qui se sont développées dans les années 2010, surtout pour surveiller qu'est-ce qui se passait, puis là, je veux dire, sur le dark web, mais en fait, je devrais dire, pour surveiller les individus qui utilisent cette technologie-là. Je pense qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été investis pour essayer justement de comprendre ce phénomène-là. Et je pense qu'à peu près tous les conseils d'administration de grandes entreprises se sont posé la question, mais quel est notre risque avec le dark web en sachant pas trop, en fait, quelles questions se poser, quelles réponses attendre, mais sachant qu'il fallait faire un chèque avec beaucoup de zéros pour être capable de savoir un peu quel était leur risque lié finalement à cette technologie-là.
Ouais, ça l'a frappé beaucoup l'imaginaire sur le dark web. De toute façon, juste le mot dark web est très, très obscur et frappe l'imaginaire. Donc, les gens se sont beaucoup excités par rapport à ce genre de choses-là. Quand dans les faits, ce n'est qu'un dépôt de données illicites, souvent qui émane de fuites de données qui sont revendues notamment. Et pas juste ça, mais c'est pour ça que ça a été principalement connu. Puis, comme tu le mentionnes, l'échec à beaucoup de zéros, c'était pour vérifier si les données d'une compagnie s'y trouvaient. Et s'ils s'y trouvaient, de pouvoir agir avec diligence pour régler le problème.
Puis là, si je peux même me permettre de te corriger, c'est pas que les données se trouvent sur le dark web, c'est en fait que des délinquants vont mettre des sites web en ligne et vont les organiser, les structurer de telle manière à ce qu'ils soient seulement accessibles si on passe par le dark web pour, en fait, cacher la localisation de leur serveur, puis aussi pour ne même pas savoir qui sont leurs visiteurs, finalement. Donc, le dark web, on a vu qu'il y a beaucoup de ressources, en fait, qui ont été développées. En fait, beaucoup de sites web qui ont été développés. On a vu, en fait, tous les services web qui existent. Ça peut être des chats, ça peut être des courriels. Tout ce qui existe sur l'Internet, en fait, peut être utilisé en passant par le dark web, et ça permet donc d'anonymiser un peu notre identité. Et là-dessus, c'est assez difficile de savoir, en fait, tu sais, c'est quoi l'ampleur du phénomène. Je dirais que à défaut d'en avoir une meilleure, la compagnie Chainalysis, fait des rapports à chaque année en regardant les transferts de crypto-monnaies, donne une certaine idée, en fait, de l'ampleur du phénomène. Puis on a vu que dans les années 2010, même nous, on avait publié un article scientifique où on disait un changement de paradigme dans le monde criminel grâce au dark web. Et c'est parce qu'on voyait, en fait, une augmentation assez importante du nombre de plateformes, du nombre d'utilisateurs. Les gens en parlaient énormément. Puis il y avait donc cette espèce de buzz et d'activité-là autour du dark web parce que c'était rendu facile à utiliser, parce que ça donnait un certain sentiment de sécurité. Puis on a vu que à peu près tous les secteurs du monde criminel se sont posé la question, est-ce qu'on devrait opérer à l'aide de cet outil-là, puis comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et c'est pour ça qu'on a vu en fait énormément de plateformes individuelles. On pouvait acheter des identifiants, des mots de passe, des mots de carte de crédit, un peu tout ce qu'on connaît du monde de la fraude puis des crimes économiques. Mais même aussi la plupart des marchés illicites qui ont transféré en fait à l'aide de l'outil du réseau Tor, pour être capable de faire des plateformes, les premières plateformes mondiales, par exemple, de vente de drogue illicite, mais ça peut être aussi pour vendre des technologies qui n'étaient peut-être pas disponibles à l'export, pour vendre du malware et d'autres produits cyber. Donc, on a vu les deux, en fait, monter en puissance, puis aussi, évidemment, ben, les services de chat là, qui permettent donc de chatter ensemble de manière peut-être un peu plus discrète et avec une couche supplémentaire de sécurité, même si, encore une fois, c'est pas tout à fait parfait. Puis, ce qui a été, je pense, intéressant dans les dernières années, c'est le fait qu'on a vu un peu la montée jusqu'à 2017-2018. Et à partir de ce moment-là, ben, on a réalisé quand même que les services de police, même si ça prend un certain temps à s'organiser, peuvent être quand même assez efficaces. Puis on a vu certaines opérations policières qui ont été assez sophistiquées. Et même moi-même, en tant qu'expert, j'étais quand même impressionné dans le sens où les opérations que j'ai vues à partir de ce moment-là, si on m'avait demandé quelle serait l'opération policière parfaite à déployer, ben, c'est vraiment ce qu'on a vu. Et on a vu donc que les services de police, particulièrement aux Pays-Bas et aux États-Unis, en Allemagne aussi, sont devenus en fait extrêmement efficaces pour s'attaquer aux personnes qui utilisent le réseau Tor. Et je sais pas si tu as suivi un peu là, les différentes évolutions, les différentes opérations policières. Mais ça a culminé donc avec Alphabet, qui était vraiment la plus grosse plateforme sur le dark web à l'époque, et avec donc son administrateur, la personne qui le contrôlait, qui était même un Québécois qui vivait en Thaïlande. Et donc le Québec, apparemment, on est capable d'exporter des délinquants de grand niveau donc qui opèrent à travers le dark web.
Ouais, c'est intéressant. Puis à travers ça aussi, puis ça, Tor a ses avantages, mais ses inconvénients. Puis ça, un des éléments qui est très fort maintenant, qui est plus mieux connu maintenant, c'est que les nœuds de sortie sont généralement contrôlés par des forces de police, par le renseignement, par ce genre de choses-là. Donc, c'est là où dire que c'est sécurisé est complètement faux. Mais dire c'est juste plus anonymisé jusqu'à certains égards, mais tout ce qui est dans les nœuds de sortie est hyper analysé par les différents services de renseignement, notamment. Là.
Mais faut voir la façon dont Tor fonctionne, c'est en fait que au lieu de se connecter à un serveur directement, on va passer à travers une série de trois relais qui devraient en théorie être choisis aléatoirement parmi un bassin de relais disponibles. Et si ces trois relais-là ne sont pas contrôlés par la même personne, ben on est capable d'anonymiser notre connexion finalement puis de protéger notre identité. Maintenant, un des gros problèmes, c'est que le réseau Tor optimise pour la vitesse et l'efficacité, ce qui veut dire que ben on va prendre des relais qui sont géographiquement proches de nous. Et déjà, ben c'est un problème parce que si moi je suis au Canada et que je prends trois relais au Canada, ben évidemment, je m'expose à ce que justement un peu comme tu le dis, ce soit la police qui opère les relais que je vais utiliser versus si c'est un relais au Brésil, un au Japon puis un en Afrique du Sud, où il faudrait peut-être d'avoir une certaine collaboration internationale qui est plus difficile. L'autre chose, c'est que le réseau Tor optimise encore une fois pour l'efficacité, ce qui veut dire que si moi j'opère un relais au Canada qui est extrêmement rapide avec beaucoup de bandes passantes, beaucoup de gens vont vouloir prendre mon relais parce que j'ai une bonne connexion. Ce qui fait que même si on a 7000 à peu près relais disponibles dans le monde, la plupart de ces relais-là ont en fait des bandes passantes sont plutôt limitées, ce qui fait qu'il y a un tout petit groupe de relais qui est responsable pour une partie très importante du trafic du réseau Tor. Et donc, ce réseau qui se veut distribué l'est pas nécessairement autant qu'on le voudrait. Et on pourrait avoir un réseau Tor qui est beaucoup plus sécuritaire, mais ça voudrait dire un réseau Tor beaucoup plus lent. Et les gens se sont habitués au fil du temps à avoir donc une certaine vitesse de connexion. Et je ne sais pas si on pourrait vraiment revenir en arrière et de se dire, allons-y pour quelque chose de plus sécuritaire finalement.
Oui, effectivement. Dans les premières années, c'était comme très pénible d'être sur Tor. La vitesse était exécrable. C'était comme revenir des années 90. Ouais. En termes de vitesse, c'était épouvantable, mais en même temps, on avait une plus grande garantie de vie, de protection de l'anonymité qui était que ça l'est actuellement aussi. Là.
Exact, exact. Et donc, on a vu énormément d'énergie et de réaction face aux attaques qu'utilisait le réseau Tor. Et je l'ai dit dans plusieurs entrevues dans le passé, mais au cours des dernières années, je pense qu'il y avait plus de danger pour les délinquants à utiliser le réseau Tor que d'avoir une plateforme qui était juste sur l'Internet, simplement parce que l'attention policière, un peu comme l'attention dans les conseils d'administration, était quel est le risque pour le dark web? Comment est-ce qu'on peut arrêter des gens sur le dark web? C'est rendu comme un peu le trophée de chasse, disons, le plus couru qu'on pouvait obtenir. Et même s'il y a eu énormément d'opérations policières, il y a eu très peu de personnes arrêtées, simplement parce que le crime aujourd'hui est international. On n'a pas nécessairement la chance de bâtir des dossiers sur beaucoup de gens. Et même si, par exemple, j'arrivais à remonter jusqu'à ton adresse IP à toi, il faut quand même que je prouve que tu étais derrière le clavier au moment où le crime est arrivé et que c'était pas, par exemple, un ami qui était de passage à Québec qui a décidé que parce qu'il dormait chez vous, qu'il allait hacker la Banque d'Angleterre. Donc, heureusement pour toi, tu as toujours cette espèce, comme on dit en anglais, de plausible deniability en disant prouvez donc que c'était moi derrière le clavier à ce moment-là et pas Ringo qui était de passage chez moi ce soir-là.
Bien heureusement, j'ai pas d'amis qui ont ce genre de prétentions-là. Je m'en sens rassuré.
Exactement. Donc, on a quand même vu que les services de police ont été très efficaces, pas nécessairement pour arrêter des gens, mais beaucoup plus pour, en fait, perturber les activités puis ajouter donc de la friction dans le système. Puis on l'a bien vu, si les plateformes que les gens utilisent se font fermer, les gens doivent aller à droite et à gauche, on voit que une fois, il n'y a aucun problème. Donc, tu sais, si on ferme une plateforme, on dit à tout le monde, hey, on ne sera plus sur Leaks Forum, maintenant on va être sur Breach. Bon, fantastique, tout le monde s'en va sur Breach, on s'installe, on fait son lead, tout le monde est bien confortable. Mais là, six mois plus tard, Breach ferme, puis là, on me dit, bon, il faut que tu ailles ailleurs. À un moment donné, ça devient donc assez épuisant pour les gens. Puis les délinquants se disent, écoute, là, on essaie quelque chose, clairement que ça fonctionne pas. Faut peut-être qu'on essaye autre chose. Et donc, on a vu peut-être au cours des 5 dernières années, beaucoup de groupes de délinquants qui se sont dit, il y a tellement de friction à utiliser cet outil-là. Ça nous ajoute une sécurité, oui, mais pas tant que ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas voir ailleurs si on ne serait pas capable finalement d'opérer de manière plus fluide puis en attirant moins l'œil de la police finalement?
Oui, je vais racheter là-dessus. Puis parce qu'on ne l'a pas vraiment abordé, c'est parce que tu ne peux pas tomber comme par hasard sur un site qui est hébergé à travers le Tor notamment, mais le Dark Web de façon générale. Il faut que tu aies quand même un minimum de connaissances. Il n'y a pas de genre un Google du Dark Web. Donc, c'est plus difficile de trouver ces informations-là. Et donc, ça la rajoute à la friction. Parce que si on ferme un site, il faut qu'ils trouvent un moyen de le publiciser. Ce qui est paradoxal dans un contexte où ils ne veulent pas être connus, mais ils veulent être connus pour faire des transactions. Ça fait que ça rend ça beaucoup plus compliqué, cette friction-là, que si j'avais un simple site sur Internet, je le ferme, je le remets ailleurs, puis je le remets dans Google, puis pouf, ça bouge tout seul. Il y a tous ces éléments-là de complications ou de friction à l'utilisation même de Tor.
Puis, en fait, un aspect relié à tout ça, c'est le phishing puis la fraude, en fait, entre les délinquants. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que, justement, les sites changent d'URL constamment. Ils bougent constamment quand ils sont accessibles à travers le dark web, puis tout le monde est un peu à la recherche, quelle est l'URL pour la ressource à laquelle je veux accéder. Et les études ont montré que jusqu'à 95% des liens qui sont publiés en ligne sont en fait des liens de phishing. Donc, s'il y a une plateforme qui permet, par exemple, d'acheter des noms d'utilisateurs puis des mots de passe, bon, ben moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux extrêmement facilement cloner le site web. Puis en gros, si je suis capable de disséminer l'URL de mon faux site qui copie le vrai, ben les gens vont payer moins pour avoir ces noms d'utilisateurs, ces mots de passe-là, mais évidemment, ils ne recevront jamais rien. Et donc, les recherches montrent qu'il y a énormément de ces petits chenapans, comme on dit, qui essayent d'attirer vers eux des clients. Et on n'a jamais quantifié, mais je serais quand même curieux de voir toutes les recherches que les gens font. Est-ce qu'on va collecter des données sur des vrais sites ou des clones des vrais sites? Puis il y a un impact quand même hyper important dans qu'on essaie de comprendre c'est quoi l'offre de produits, c'est quoi la disponibilité et tout ça. Et ça aussi, ce risque-là de tomber sur un site cloné ajoute encore plus de friction en fait et fait que les gens veulent pas nécessairement donc passer tout ce temps-là à trouver c'est quoi la nouvelle URL du site et est-ce que je peux lui faire confiance là. Et donc c'est là où justement on a vu un déplacement puis une montée en puissance de d'autres canaux de communication, notamment Telegram, qui aujourd'hui on parle de 700 millions d'utilisateurs. Il y a énormément d'utilisation légitime de Telegram, mais c'est aussi devenu, pour plein de raisons, un, parce que c'est facile à utiliser, tout le monde l'a sur son téléphone, on peut parler en temps direct, puis on a tout l'aspect de robot et de d'API qui permet aux vendeurs en fait d'opérer des boutiques automatiques qui sont de plus en plus prisées. Puis on l'a vu, je donne un exemple, là, mais avec les fausses pièces d'identité, ben maintenant dans Telegram, qui est donc une application de chat en ligne, ben on peut converser avec d'autres personnes, oui, on peut converser dans des chat rooms où il y a des milliers de personnes, ou encore avec des robots, puis on peut dire aux robots, voici les informations que j'aimerais avoir sur mon faux permis de conduire, voici une photo. Puis en gros, le robot va, avec du AI, nous produire une image donc d'un faux permis de conduire. Puis on peut choisir, est-ce qu'on veut que notre faux permis de conduire soit à la plage? Est-ce qu'on veut qu'il soit sur la table de cuisine? Et là, ils vont même patenter ou inventer finalement un background crédible, comme si j'étais chez moi puis j'avais pris une photo de mon permis de conduire, j'ai déposé sur un sofa, une chaise ou peu importe. Et la détection des faux documents, par exemple, devient extrêmement difficile dans ce contexte-là. Là.
C'est intéressant l'usage de Telegram parce que ça déplace le problème. En plus que Telegram est en possession russe, je crois, ce qui rend ça un peu plus difficile d'accès aux forces de l'ordre dans certains égards.
Ben, en fait, Telegram est basé à Dubaï, donc le concepteur, la personne qui a financé puis développé donc Telegram, c'est celui qui avait parti donc le Facebook russe et qui s'était fait dire par le Kremlin que ben finalement le Facebook russe, ça serait bien si le Kremlin était capable d'aller chercher donc et d'avoir accès à toutes les données privées des gens. Et Pavel Durov donc avait décidé que ben plutôt que de être complice du Kremlin, il avait très publiquement dit « Je m'en vais vivre à Dubaï et je vous donne, ben, en fait, je vous donne, vous allez saisir Vkontakte et je vais partir à un autre réseau. » Donc, c'est à Dubaï, qui est pas l'endroit où, évidemment, on a le plus de nécessairement de liberté non plus. Et Telegram est réputé pour ne pas partager les informations de ses utilisateurs. Mais si on Google, on va trouver quand même quelques exemples de cas où des données auraient été envoyées à des services de police en Allemagne notamment. Et on parle surtout de cas là, de pornographie juvénile où possiblement que Telegram, malgré sa politique, n'aurait possiblement pas respecté la vie privée de ses utilisateurs puis aurait pu partager des données. Mais on attend encore d'avoir une preuve un peu plus tangible à ce niveau-là. Mais un des aspects, moi, je trouve fascinant de Telegram, c'est que, justement, un peu comme toi, tout le monde prend pour acquis que c'est cette compagnie russe, alors qu'ils sont à Dubaï, qui partagent aucunement les données, alors que c'est peut-être pas le cas. Et Telegram, ils ont mis énormément de ressources dans les outils pour surveiller les gens sur Telegram. Les API sont nombreux, sont bien documentés. On peut avoir accès à tout le contenu en temps réel. C'est la seule plateforme utilisée par des criminels où il y a un bouton « Export » qui me permet d'exporter le contenu d'un chat où il y a des milliers de personnes. Et en tant que délinquant, je me demande encore ce serait quoi l'utilisation légitime de ça, tu sais, qui a besoin d'archiver des chats de groupe si ce n'est que des chercheurs comme moi ou encore des services de police. Donc, on les remercie énormément, mais on voit en fait que toutes les compagnies qui s'intéressaient focusaient beaucoup donc sur qu'est-ce que les délinquants disent et font à travers le dark web. Maintenant, on se pose beaucoup plus la question qu'est-ce qui se passe à travers Telegram. À quelques exceptions près, là, évidemment, tout ce qui est pornographie juvénile, on parle beaucoup encore donc du réseau Tor. Si on regarde également tout ce qui est des ransomware, les sites de ransomware, les sites web qui vont publier les données des compagnies qui ont été victimisées, ça se passe encore une fois à travers donc le réseau Tor. Donc, c'est pas tout le monde qui a fait la transition. Mais c'est quand même beaucoup de gens, notamment pour tout ce qui est le développement, le partage, la vente de malware, qui est rendu très présente, oui, sur des forums comme Exploit et XSS, puis Ramp dans une bien moindre mesure, mais aussi beaucoup Telegram, là, où on voit qu'il y a des channels de développement de malware qui sont extrêmement populaires, disons.
C'est intéressant justement que tu pointes le fait que je vis dans l'espace commun et que j'ai pas ce degré de connaissance là de cette nuance là. Mais d'ailleurs et ce qui m'intrigue au niveau Telegram, c'est qu'est-ce qui finance ça, parce que c'est follow the money, suivre l'argent, ça opère pas dans un vase clos, fait que le propriétaire doit tirer de l'argent justement du bouton export que tu mentionnes, ou ces affaires-là doivent lui donner des avantages concurrentiels si on compare à d'autres réseaux qui pourraient être, à mon avis, beaucoup plus sécuritaires pour ce genre d'échange-là. Peut-être un peu plus difficile à trouver, mais quand même plus sécuritaire globalement.
Oui, mais officiellement, ils survivent en vendant des stickers qu'on peut mettre dans ces messages et d'autres service premium, on sait tous combien d'argent on peut faire en vendant des stickers en ligne. Telegram était présenté comme étant, disons, un don de Pavel au monde. Donc, de se dire que il va financer ça pour justement donc permettre aux gens d'avoir une liberté d'expression, de pouvoir communiquer les uns avec les autres. Ce qui est un très beau geste. On n'a pas tellement d'idées là sur combien de gens travaillent là-dessus, combien est-ce que ça coûte opérer Telegram. On a vu dans les derniers mois des applications comme mettons Signal qui parlaient juste les coûts de combien est-ce que ça coûte d'envoyer des SMS pour valider les comptes. C'est plusieurs millions de dollars par année. Donc Telegram aussi passe à travers tout ça. Et Telegram est un peu comme la plupart des applications. Quelle est la première chose que Telegram va faire? Ben, c'est d'aller fouiller dans nos listes de contacts sur nos téléphones, d'aller prendre nos adresses IP. Donc, c'est aussi un outil qui collecte quand même énormément d'informations sur les gens, possiblement plus que ce que les gens pensent, en fait.
Ouais, puis c'est un élément qui est paradoxal, cette migration vers Telegram, comme cette migration vers Bitcoin ou les crypto-monnaies de façon large, parce que la crypto-monnaie n'est pas anonyme. C'est ça qui est particulier, puis les gens ont comme migré là-dessus, mais c'est pas comme de l'argent cash. La crypto-monnaie a quand même une traçabilité beaucoup plus grande, et on est capable d'intercepter et de trouver les gens puisque les ledgers sont par nature publics. Donc, on a comme une espèce de paradoxe aussi où les malveillants utilisent ou tombent dans les perceptions communes ou populaires de ces technologies-là qui sont parfois inexactes.
Tout à fait. Puis pour ce qui est de toutes les crypto-monnaies, Disons qu'on est toujours un peu en retard sur les capacités des services de police dans ce cas-ci. Donc, on a eu des cas où on nous dit qu'on a réussi à suivre des paiements faits en crypto-monnaie. Et je suis franchement surpris de savoir qu'on a été capable de suivre ces paiements-là, notamment quand on passe d'une monnaie à l'autre. C'est que on peut, par exemple, avoir des bitcoins d'un côté, on peut avoir du Monero de l'autre, puis tu sais, toi et moi, je peux dire, OK, bon, mais je t'envoie mes bitcoins, tu m'envoies ton Monero, puis comment est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Ça devient pratiquement impossible vu qu'on est sur plusieurs blockchains à la fois. Mais on a eu quand même quelques exemples. La police nous disait, ah, même s'ils ont fait ça, on les a suivis à la trace. Donc, en effet, là, ça reste une technologie, disons, qui est très utile, qui a permis au crime en ligne de se développer, mais qui, encore une fois, aussi a son lot de risques. Je pense qu'on est capable, on pourrait être anonyme en utilisant ces monnaies-là, mais ça demande un degré de sophistication quand même assez élevé là, à ce niveau-là.
Ouais, c'est pas difficile à tout le monde d'avoir ce degré de sophistication-là. Puis on l'a vu avec le Silk Road, entre autres, le degré de obsèque nécessaire pour réussir à rester anonyme puis de pas se faire trouver est énorme. C'est Silk Road, c'est après, je pense qu'ils ont réussi à retracer une adresse puis ont retracé genre un élément l'a trahi. Et ça n'en prend pas beaucoup à la police, surtout quand il y a des éléments énormes comme ceux-là. D'observer et de faire cette corrélation-là. Je suis pas de ce côté-là, fait je sais pas à quel point ils ont accès à des outils, mais je sais que j'ai vu comme des outils comme Palantir à certaines époques, qui étaient phénoménal en termes de capacité de corrélation automatique. Fait, je suis pas mal convaincu que les services de renseignement ou certaines forces de l'ordre ont accès à des outils de corrélation très puissants, quelque même nous, comme simples citoyens, on a difficulté à pouvoir même imaginer qu'ils existent.
Oui, puis même les outils gratuits comme GraphSense, fait un travail assez spectaculaire là c'est 1% probablement de ce que les services privés font. Donc, c'est ça. Puis justement, ben, quand on parle de Telegram, évidemment, tout ça, ben, ça alimente encore plus donc les transactions sur Telegram. Donc, si on regarde le monde criminel aujourd'hui, on est sur Telegram parce que c'est un outil qu'on aime bien, qui est facile d'utilisation, utile et tout. Je pense que ça va être très intéressant en regardant dans le futur à quel point est-ce que le sentiment d'impunité que les gens ont en utilisant Telegram, est-ce qu'il va rester? Est-ce que la police va finalement faire des arrestations en disant « on a visé Telegram » je pense que ça va être quand même assez intéressant de voir dans le futur si ça devient une cible, et je pense que ça va le devenir, et avec quelle efficacité ils vont être capables, encore une fois, d'aller chercher ces individus qui font cette criminalité-là. Là.
Ouais, puis de mon point de vue de non-connaissant de ce milieu-là, ce que je vois généralement, c'est que le groupe Lockbit a été mis à terre au moment de l'enregistrement et réémergé peu de temps après. Donc, cette capacité-là à ces groupes-là de réémerger rapidement et de se retourner rapidement, ce qui fait que, un peu comme tu mentionnes, il n'y a pas tant d'arrestations qu'ils font juste comme couper les infrastructures technologiques, puis ils font que les gens continuent, font juste bouger ou migrer vers des éléments secondaires ou différents. Telegram, c'est la dernière migration. Il va peut-être en avoir d'autres, justement, qui vont amener ailleurs. Mais en même temps, à mon sens, c'est tout le petit criminel qui va se ramasser dans ces réseaux-là quand les grands criminels, généralement, vont se retrouver dans des éléments beaucoup plus sophistiqués. Puis ça, c'est ma perception. Là. Puis là, je mets ça au jeu, voir si ma perception est égale à la réalité. Là.
Oui, tout à fait. Là. Puis, tu sais, on a toujours, de toute façon, tu parles de Lockbit, mais en général, c'est toujours un peu suspicieux et questionnant là, quand un groupe a plus ou moins été visé par un service de police puis que les gens reviennent. Est-ce que c'est une police qui se fait passer pour le délinquant? Est-ce que c'est les vrais délinquants? Des clés PGP, tu sais, ça va se faire saisir aussi. Donc, il y a toujours beaucoup de questionnements, disons. Puis on a vu les services de police opérer des grandes plateformes criminelles pendant plusieurs semaines. On l'a vu là, dans les années 2000 avec les sites de fraude de cartes de crédit. C'est toujours intéressant de se demander est-ce que la police accuse les opérateurs de ces plateformes-là de vendre des produits qui vont causer des morts, mais eux-mêmes opèrent les mêmes plateformes qui, finalement, ne sont pas supposées causer des morts. Et donc, il y a quand même des questions éthiques assez pertinentes qui se posent là-dessus. Et c'est sûr, en fait, qu'on va passer à autre chose parce que ben, les technologies sont faites de telle manière que on va toujours être capable de retracer des gens en ligne tôt ou tard. Et en gros, si on leur fait peur, ben, on va les déplacer ailleurs. Et on verra, là, on attend toujours que le métaverse se développe assez pour qu'il y ait des activités criminelles qui s'y passent. Ce sera peut-être la prochaine frontière. Écoute, je vois déjà dans les conférences là, les présentations qui commencent là-dessus. Donc, ce sera peut-être la prochaine étape. Donc, on pourra s'en reparler dans un prochain podcast, peut-être dans quelques années. Ouais, ou le podcast même dans le métaverse.
Enfin, oui, enregistré dans le métaverse directement. Puis je vais faire une parenthèse, puis on va conclure après. C'est ça, quand tu parlais d'opérer des plateformes, il y a eu comme une époque où il y a des cellulaires faussement sécurisés, justement, qui avaient été infiltrés de cette façon-là, qui étaient justement avec des clés qui étaient connues par des services de renseignement, là, ouais. Notamment. Là.
Oui, tout à fait. Là. Puis ça aussi, justement, les délinquants se sont fait prendre encore et encore et encore en disant « cette fois-ci, on a un réseau sécurisé ». Malheureusement pour eux, c'était pas tout à fait le cas.
Oui, ils doivent pas vivre dans un niveau de paranoïa assez grand pour justement se méfier de tout ça, parce que quand, dans tout cas, du moins, dans ce que j'en connais, moi, j'ai même pas l'idée d'aller dans ces univers-là, parce que c'est sûr que je serais probablement dans le premier piège qui me serait tendu de toute façon, fait que je serais pas un super bon criminel pour ça. C'était très intéressant de faire ce tour d'horizon-là, de voir à quel point ça a évolué. Ce qu'on appelait le dark web, effectivement, est en train de changer, est en train de muter vers un autre univers. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à voir évoluer ça. Puis je te remercie énormément de ta contribution. En tout cas, moi, ça m'a éclairé clairement. Et j'espère que ça va aider à éclairer d'autres personnes sur le fonctionnement.
Ben écoute, merci pour l'invitation. Puis à bientôt.